France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la tuerie du Sofitel d'Avignon. Dans la nuit du 4 au 5 août 1983, 7 personnes sont assassinées dans un hôtel chic du centre-ville, le tout nouveau Sofitel du quartier de la Balance. Les assassins, des braqueurs du coin en mission pour s'en mettre plein les poches. Leur plan, vider les coffres-forts de l'établissement. Mais ce qui devait être un hold-up sans effusion de sang dérape. Le commando fait 7 victimes, 4 hommes et 3 femmes, 7 morts. Des employés et des clients dont le seul tort est d'avoir croisé la route des malfaiteurs. Pris en chasse par les policiers, seul l'un des malfrats sera rattrapé. Quant à ses acolytes, les enquêteurs auront bien du mal à les retrouver. Qui sont-ils? Et surtout, qu'a-t-il bien pu se passer? Ce massacre n'est-il qu'un hold-up qui a mal tourné ou bien plus? Le problème, c'est que la tuerie du Sofitel ne laisse derrière elle qu'une mare de sang, bien peu d'indices et encore moins de témoins. Notre invité aujourd'hui est Jean-Michel André, photographe et fils de l'une des victimes de la tuerie du Sofitel. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Siam Spencer, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Stéphane Ronxin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
5 août 1983. Le Festival d'Avignon se termine dans 2 jours. L'air est chaud, caniculaire même, et les touristes nombreux. Dans la cour d'honneur du Palais des Papes, qui affiche complet, on applaudit debout longuement et tous les soirs les spectacles de la grande chorégraphe allemande Pina Bausch. 36 ans après sa création par Jean Villard, le festival n'a plus à prouver sa popularité. Dans les rues pavées du centre-ville, les festivaliers voguent d'une salle de spectacle à l'autre. Certains s'accordent une petite pause pour se prélasser en terrasse, place des Corsins remplie de comédiens ou de leur loge remplie de touristes. Des emplacements de choix pour observer la déambulation quotidienne des troupes du Festival OFF, prêtes à tout pour rameuter du public, parades et tractages incessants. Une ambiance unique, ce Festival d'Avignon. Peut-être le dernier endroit où l'on cause, comme le disait si bien la critique de théâtre Fabienne Pascaud. Et puis, l'animation des rues en journée se prolonge le soir, dans les restaurants et au comptoir des bars. Il n'est pas rare de trouver, même au milieu de la nuit, encore quelques fêtards, touristes ou comédiens en jour de relâche. Voilà pour le décor. Mais de l'activité pendant le festival, il y en a aussi du côté du commissariat. En majorité, des interventions pour tapage nocturne, vol, bagarre. Ce 5 août, le policier Mariano Puzo est d'astreinte. Quand le téléphone sonne à 3h32 précise, c'est lui qui décroche. Au bout du fil, une voix affolée. « C'est au Sofitel, je viens d'entendre des coups de feu, on tire ici !» Mariano Puzo transmet aussitôt l'information aux patrouilles du centre-ville. Deux voitures de police se mettent en route, direction le quartier de la Balance. Sur les quelques minutes de route jusqu'à l'hôtel, les policiers s'interrogent. Est-ce encore un de ces hold-up d'hôtels si fréquents cette année-là?
Nouveau fric-frac ce matin dans un hôtel parisien. Des malfaiteurs armés ont fait irruption dans le hall de l'hôtel Holiday Inn, place de la République. 46 coffres ont été fracturés. C'est le 4e hôtel de la capitale attaqué de la même manière depuis le début du mois de juillet. 11 hôtels parisiens ont été cambriolés depuis le début de l'année. À chaque fois, le même scénario. Un scénario qu'a raconté un représentant de la direction de l'hôtel Holiday Inn à Éric Bénard.
Il était entre 4h20 et 4h30 et il y a deux personnes qui sont arrivées comme s'ils étaient des clients, pour se faire enregistrer à l'hôtel. Ils se sont donc avancés vers la réception, ils ont commencé à parler avec les réceptionnistes. L'attention des réceptionnistes était bien sûr dirigée vers ces deux personnes qui leur parlaient, et c'est à ce moment-là que les quatre personnes masquées sont entrées dans l'hôtel et sont sautées par-dessus le comptoir et ont donc fait coucher tout le monde.
Arrivés devant le Sofitel, les policiers sont sur leur garde. Tout semble calme. Personne à la réception, pas de bagagiste, personne au bar non plus. Alors il s'avance jusqu'au comptoir. À peine l'un d'eux en a-t-il fait le tour que le téléphone sonne. Au bout du fil, c'est le directeur de l'hôtel qui appelle depuis sa chambre, au 2e étage. Il a entendu des cris et des coups de feu. « Montez vite !» dit-il. Les policiers s'engouffrent dans l'ascenseur. Au deuxième étage, les portes s'ouvrent sur le couloir. Toujours personne. Mais au sol, sur la moquette, une balle de revolver. Et sur les portes de certaines chambres, des traces de sang. Celle de la 209, notamment, en est recouverte. À l'intérieur, des chuchotements. L'un des policiers frappe à la porte. Pas de réponse. Alors il crie « Police, ouvrez !» À l'intérieur, les chuchotements se transforment en éclats de voix. Au même instant, la seconde patrouille postée à l'extérieur de l'hôtel voit deux silhouettes sauter par la fenêtre. Un saut de plusieurs mètres, amorti par le capot d'une voiture en contrebas. Les deux hommes s'élancent à toute vitesse dans les rues du centre-ville, les policiers les prennent immédiatement en chasse et perdent la trace du premier fuyard en quelques secondes. Le deuxième homme, c'est un certain Jean Roussel, bien connu des services de police locaux. Il prend la fuite en direction des remparts de la ville, avec l'intention de sauter dans le Rhône. Mais il n'en aura pas le loisir. L'un des policiers réussit à le coincer en voiture, comme il le raconte dans cet extrait du journal d'Antenne 2.
J'ai accéléré et puis je l'ai bloqué contre le mur. Alors je lui ai dit arrête ou je t'écrase et puis je l'ai bloqué avec l'aile avant parce qu'il n'y avait pas de trottoir, presque pas de trottoir. Je l'ai bloqué à ce moment-là. Non, alors à ce moment-là, lui, comme il était bloqué, il ne pouvait plus aller. Il a fait demi-tour et c'est à ce moment-là que je l'ai attrapé. Au moment où il repassait, je l'ai attrapé comme ça pour l'empêcher de passer. Et c'est là où lui, il m'a jeté l'arme carrément. Il a fait le geste.
Dans Avignon et ses alentours, c'est environ une soixantaine d'hommes qui poursuivent actuellement le ou les complices de Jean Roussel, 38 ans. Plusieurs fois arrêté pour vol qualifié qui, après 12 ans de détention, devait rentrer le 31 juillet dernier à la prison de Clairvaux à la suite d'une permission spéciale. Roussel avait reçu l'autorisation d'aller pendant une semaine au chevet de sa mère malade à Barentane, dans les Bouches-du-Rhône.
Retour à l'hôtel où une partie des policiers sont restés pour inspecter les lieux. Ils ouvrent les chambres une à une. Ils entrent d'abord dans la 201. Le sang est partout, dès le couloir et jusqu'au miroir, sur le lit, sur la moquette. Mais pas de corps. Non, la scène d'horreur, ils la découvrent dans la salle de bain. À même le carrelage, un homme gît dans une mare de sang. Il est presque décapité, les bras croisés sur l'abdomen. La police continue son inspection avec la chambre 209, celle d'où se sont enfuis les suspects. Là encore, du sang partout, au sol, sur le mobilier, sur les cloisons. Et cette fois, il y a plusieurs cadavres. Deux femmes sont étendues sur la moquette. L'une d'elles porte l'uniforme de la réception de l'hôtel. Sur le lit, un autre corps, une femme également. Et l'horreur continue dans la salle de bain. Deux autres morts, des hommes couchés sur le ventre. Les policiers retiennent leur souffle et inspectent une à une les autres chambres. Ils trouvent le dernier cadavre dans la 214. L'homme a le bras presque arraché, la gorge tranchée. Toutes les chambres ont été inspectées. Sept morts. La patrouille avignonnaise peine à respirer. C'est un véritable carnage. Les victimes s'appellent Nicole Van Buren, la réceptionniste originaire des Pays-Bas, 23 ans. Jean Aronian, le pianiste remplaçant de l'hôtel, et sa compagne Agnès Buis, 31 ans tous les deux. Pierre Ancinelli, le barman, 25 ans. René Poul, le bagagiste, 27 ans. Lucie André, diplomate, 62 ans. Et Geneviève Dupont, sa compagne, 41 ans. Tous sont morts dans la tuerie du Sofitel en moins de 10 minutes.
Madame, monsieur, bonsoir. Avignon, l'été, c'est d'abord le festival. La foule s'y est pressée, cette année encore, les hôtels sont pleins. Mais depuis ce matin, l'atmosphère n'est plus la même. Tout près du pont, à l'hôtel Sofitel, trois malfaiteurs, à l'aube, ont voulu visiter le coffre. Surpris, ils ont tué. Ce n'est plus un hold-up manqué, c'est un carnage.
Le hall du Sofitel, ce matin à Avignon. Derrière la réception, le coffre que les gangsters ont vainement tenté de forcer. Au deuxième étage, les employés de l'hôtel et les forces de police découvrent les corps des sept témoins du hold-up. Ils ont tous été abattus, froidement, à bout portant. Dans l'une des pièces, les enquêteurs retrouvent des armes. Un Magnum 357 et un fusil à pompe. Sept morts, victimes et témoins à jamais muets d'un carnage froid et méticuleux.
Un seul homme est interpellé, Jean Roussel donc. Un type de taille moyenne. Épaisse moustache, cheveux bruns, joues creuses. À 38 ans, il traîne une réputation de bon vivant, pour ne pas dire d'alcoolique. Mais on le dit également nerveux, irritable. Originaire de la région, à quelques kilomètres d'Avignon, il passe son adolescence à traîner dans la rue avec ses frères, Vincent et Roger. Jean, lui, n'a pas encore 18 ans, que déjà. Il est abonné au fourgon de police et aux tribunaux. Majeur, il poursuit sa carrière dans le petit milieu du banditisme local. Et il sévit la plupart du temps avec ses frères, sur des vols à main armée. Ce qui lui vaut son premier séjour en prison. Il a 22 ans et retrouve sa liberté à 25 ans. À peine relâché, il est aussitôt arrêté, cette fois pour coups et blessures. À 28 ans, il étoffe son palmarès avec de nouveaux braquages qui lui valent une fois encore un séjour en prison. Mais là, il en a plus qu'assez de passer sa vie derrière les barreaux. Alors il s'évade, mais il est repris. Retour en prison, dont il ne sortira que 9 ans plus tard pour une permission, ce qui ne veut pas dire libération. Devant les enquêteurs du SRPJ de Montpellier, il raconte sa version des faits. On l'a mis sur un gros coup, 100 000 francs. Cet argent appartient à Lucien André, le consul de France. Les billets étaient dans le seul coffre qui a été ouvert pendant le braquage. Les morts, pas lui. Roussel le jure, lui c'est un braqueur, pas un meurtrier, donc c'est l'autre, son complice qui a déraillé. Roussel, lui, ne voulait que de l'argent, dont il avait cruellement besoin. En août 83, cela fait 9 ans qu'il est derrière les barreaux. Il lui reste encore 6 longues années à tirer, ce qui ne semble pas le décourager. D'ailleurs, il est de ceux à qui on attribue une attitude plus qu'exemplaire à la prison de Clairvaux. Alors, cet été-là, quand la mère du prisonnier tombe gravement malade, la pénitentiaire n'hésite pas à lui accorder une permission de sortie. Permission dont il ne reviendra pas.
Il fallait s'y attendre. La polémique sur le laxisme supposé de la justice française a repris ce matin. Jean Roussel, l'un des tueurs du Sofitel, a profité d'une permission de sortie pour se faire la belle, comme on dit. C'est essentiellement la presse d'opposition qui critique le plus vigoureusement l'action de Robert Badinter à la tête du ministère de la Justice. L'éditorial du Figaro titre « Le crime encouragé ».
Le 5 août 83, lorsqu'il est arrêté après la tuerie du Sofitel, Jean Roussel est donc en cavale. Sorti de prison le 26 juillet pour sa permission, il aurait dû s'y présenter le 31 pour un retour en cellule. Il n'en a donc rien été. Et c'est là que l'affaire prend une tournure nationale et politique. Car le 3 août, soit 2 jours avant le drame, Robert Badinter, en effet, garde des Sceaux à l'époque, présente en Conseil des ministres un projet de réforme sur les permissions de sortie. Parmi les mesures de cette loi dite de personnalisation de l'application des peines, la possibilité, en cas de comportement exemplaire des détenus pour des longues peines, comme Roussel, de demander une libération conditionnelle, mais aussi des sanctions mieux individualisées pour la petite délinquance afin d'éviter l'emprisonnement systématique. Avec le carrousel, l'occasion est trop belle pour l'opposition qui ressort sa musique maintes fois entendue d'une gauche supposément sur le terrain laxiste, sur le terrain de l'insécurité. Le maire RPR d'Avignon, Jean-Pierre Roux, va même jusqu'à porter plainte contre le ministre de la Justice pour homicide involontaire.
Une grande agitation régnait en Avignon, plus précisément au commissariat central. Celui qui en est la cause s'appelle Vincent Roussel. Vincent Roussel, c'est le frère de Jean Roussel, arrêté juste après la tuerie de l'hôtel Sofitel d'Avignon. Vincent Roussel a été interpellé hier après-midi, avec la plus grande discrétion chez ses parents, à Barbantane. Il est depuis interrogé sans relâche dans les locaux du SRPJ.
Au lendemain de la tuerie, une centaine de policiers et enquêteurs sont mobilisés pour trouver les complices de Jean Roussel. Parmi les premiers interpellés, son frère, donc. Mais ce Vincent Roussel est relâché quelques heures plus tard. Première piste, mauvaise piste. Alors les journalistes se massent devant l'hôtel en quête de réponse. Le commissaire Yves Bertrand du SRPJ de Montpellier leur expose très vite un mobile, l'argent. Bah oui, ça paraît évident, c'est même la raison d'être d'un braqueur. Mais pourquoi le Sofitel et pas un autre hôtel ? Eh bien parce que c'est le nouvel établissement chic à Avignon, celui où les coffres sont susceptibles de refermer le plus de liquide. Les malfaiteurs prennent l'argent là où il est. D'accord, mais les morts ? Pourquoi ce carnage s'il s'agit d'un simple hold-up ? Après le mobile, Yves Bertrand avance alors un scénario qui sera retenu par la presse pour la suite de l'affaire. Ce scénario, le voici. Devant la difficulté à ouvrir les coffres pour en voler le contenu, les truands ont voulu récupérer le trousseau de clés passe-partout de l'armoire-coffre de l'hôtel. Un trousseau détenu par le directeur, au deuxième étage. Les braqueurs y emmènent leurs otages. La réceptionniste, le bagagiste, le barman, le pianiste et sa compagne. René Poule, le bagagiste, tente alors de se réfugier dans la chambre 214 pour appeler à l'aide. Il est tué le téléphone à la main. Alerté par le bruit, le diplomate et sa compagne ouvrent la porte de leur chambre, la 209. Les braqueurs y poussent une partie du groupe. Acculés, ils ne voient plus qu'une solution pour s'en sortir, tuer tous les témoins.
Nous avons donné un communiqué et une photo concernant un individu, le nommé Goutte Noire Jack, dont les papiers ont été retrouvés tout proche. Vous avez ce communiqué et il nous intéresse parce que nous avons entendu maintenant tous les témoins qui ont approché le Sofitel au moment du drame et cet individu n'a pas pu encore être entendu, ce témoin. Alors je voudrais qu'il se présente ou que quelqu'un nous dise où on pourrait le trouver.
Jack Goutte-Noire, l'homme qu'on cherche partout. Ses papiers d'identité ont été retrouvés dans la boîte à gants d'une voiture volée garée à proximité du Sofitel. Cette piste est solide, d'autant que ce n'est pas un enfant de cœur, ce Goutte-Noire. Proxénétisme, racket, habit de confiance. En 76, il est condamné à 6 ans de prison après avoir le feu sur un inspecteur venu l'interpeller. Au lendemain de la tuerie, sa photo et son nom sont dans tous les journaux. Mais deux autostoppeuses vont arrêter net les espoirs des policiers de retrouver le suspect. Les deux jeunes femmes en question marchent entre Arles et les Saintes-Maries de la Mer en Camargue. Elles expliquent. Fatiguées, elles décident de s'asseoir quelques instants tout près du mât de la butte. En contrebas, dans un canal, elles découvrent le cadavre d'un homme nu et défiguré par les impacts de balles. Jack Goutte-Noire a été assassiné moins de 24 heures après la tuerie du Sofitel. L'affaire semble prendre alors une autre dimension.
Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Tudududu, ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario, gros plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Twi-da-dum, ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, oui, trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Puis d'un homme, ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qu'il éteigne. Puis d'un homme, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Ouais, toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur. Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Puis là, non, ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. Trafic sur un corbillard qui passe. Sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Puis là, non, ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la tuerie du Sofitel.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
L'enquête sur la tuerie d'Avignon semble s'enliser ce soir, malgré une série d'interpellations aujourd'hui, dont celle du père de Jean Roussel, le seul truand arrêté sur les lieux. L'autopsie de Goutte Noire, le complice présumé découvert criblé de balles, n'a donné aucun résultat. Les balles ont traversé son corps.
L'autopsie donne quand même quelques informations aux enquêteurs. Déjà, lorsqu'il est assassiné, Jack Goutte Noire est non seulement ivre, mais aussi très probablement sur le siège passager d'une voiture. Parce que les trois balles qu'il a reçues dans la tête et celles qui lui a traversé la hanche ont toutes été tirées depuis sa gauche, donc sûrement par le conducteur. Il est très probable que Goutte Noire ait été assassiné par quelqu'un qu'il connaissait assez bien pour monter dans sa voiture. Et puis il y a la cheville de la victime, fracturée quelques heures avant sa mort, à coup sûr dans une chute. Le type de chute, explique le médecin légiste, que l'on peut faire en sautant d'une fenêtre à plusieurs mètres de hauteur, par exemple. Tiens donc. Les policiers en sont certains. Goutte Noire était bien au Sofitel dans la nuit du 4 au 5 août. Peut-être même a-t-il été assassiné par d'autres complices présents sur place car devenus trop dérangeants. Cela étant dit, avec Roussel mutique et Goutte Noire assassiné, l'enquête, qui vient à peine de débuter, commence à patiner.
Un troisième homme. Les policiers qui enquêtent sur l'affaire d'Avignon recherchent activement Christian Paris, un truand lyonnais, fiché au grand banditisme et aperçu en compagnie de Roussel, le premier suspect. L'affaire rebondit chaque jour et chaque nouvel élément souligne le comportement implacable des auteurs de la tuerie de l'hôtel Sofitel.
Christian Paris est donc le troisième suspect sur lequel les enquêteurs jettent leur dévolu. Il faut dire que le CV de l'individu parle pour lui. Fiché au grand banditisme, il est connu pour des braquages et du proxénétisme. Un homme qui n'a pas peur de tirer dans le tas pour s'en sortir, comme 8 ans plus tôt, face à un gardien de prison lors d'une tentative d'évasion. Maintenant, pourquoi est-il suspect dans l'affaire du Sofitel ? Eh bien parce qu'il a été aperçu dans un restaurant avec Jean Roussel quelques jours avant le hold-up. S'il n'a rien d'autre à se reprocher, tant mieux. Mais voilà que depuis la tuerie, il a disparu. Introuvable, il le reste jusqu'au vendredi 12 août. À 10h du matin, un coup de fil au téléphone rouge d'Europe 1, ce numéro qui fonctionne comme un auxiliaire de police, où les auditeurs sont invités à donner des infos, va changer la donne. L'auditeur qui appelle ne laisse pas le temps à la standardiste de poser la moindre question. Alors, elle note scrupuleusement son message qui dit « Je suis Christian Paris. Je n'y suis pour rien. Je vais me rendre au procureur à Montpellier. » L'homme raccroche aussitôt. Et quelques jours plus tard, il est interpellé devant le palais de justice de Montpellier. Reportage Antenne 2.
On le cherchait à la frontière de l'Espagne et de la Suisse. Christian Paris se cachait tout simplement dans les environs de Montpellier. En début d'après-midi, vers 14h, il prend un dernier verre dans un café situé à côté du palais de justice. Il avait l'intention de s'y constituer prisonnier en se présentant au juge d'instruction. Les policiers, avertis de sa présence, l'ont immédiatement reconnu et arrêté.
Au SRPJ, il y a d'abord la satisfaction d'avoir arrêté Christian Paris. Mais après 36 heures de garde à vue, il est relâché, faute d'éléments suffisants pour le déférer au parquet. Face à l'impasse, les enquêteurs changent de tactique. Prochaine étape, la tournée des bars et des cafés. Car au début des années 80, à Avignon, c'est bien dans les bistrots que tout se passe. La cité papale est un vrai carrefour pour la pègre venue de Marseille et de Lyon. La ville n'est ni trop petite ni trop grande. On peut s'y mettre au vert quelque temps sans sortir tout à fait du milieu. Résultat, le taux de criminalité de la ville atteint des sommets, avoisinant celui de Paris. Sans réelle piste sérieuse, la police n'a pas le choix. Il faut faire parler la pègre locale. Alors on s'attable et on regarde les petits et les gros caïds enfiler des pastis et on les écoute surtout. Et puis à ceux qui ne veulent pas coopérer, on leur rappelle qu'eux aussi ne sont pas nets. Alors, de table en table, de comptoir en comptoir, les policiers parviennent à reconstituer les 10 jours de liberté de Jean Roussel et à mettre la main sur une nouvelle brochette de suspects.
L'enquête a avancé rapidement alors que beaucoup considéraient qu'elle se trouvait dans une impasse. Résultat obtenu grâce à un harcèlement du milieu du Vaucluse, une piste sur l'exécution de Jacques Boutenoir et une opération de routine. Deux personnages clés émergent maintenant parmi 12 interpellés, Gérard Roland, ancien compagnon de cellule de Boutenoir, et François Arpineau, autre compagnon de cellule.
Les policiers sont persuadés d'avoir arrêté toute la bande. Mais là encore, rien ne va se passer comme prévu. Les suspects ont pour beaucoup des alibis solides et n'ont fait que croiser Roussel, Boutenoir, par habitude ou par hasard. Ils sont donc relâchés les uns après les autres. À la fin de l'année 83, ils ne sont plus que 3 à faire encore l'objet de suspicions. D'abord, Gérard Roland, un petit truand proche de Jean Roussel et de Jacques Boutenoir, mais surtout présent le 5 août aux abords du Sofitel. Il dit que c'est lui qui a récupéré Jacques pour l'aider à se mettre au vert. Il l'aurait alors emmené chez un autre voyou, François Arpineau. Arpineau, qui lui aussi a été vu en compagnie de Boutenoir après la tuerie à la recherche d'un médecin ou d'un rebouteux pour sa cheville. Alors, qu'ont-ils fait ensuite? L'ont-ils assassiné? Était-il au Sofitel? Les deux suspects se renvoient la balle et s'accusent mutuellement du meurtre de Boutenoir et d'avoir participé au hold-up. Et puis il y a le père de Jean Roussel, qu'on désigne d'abord comme le cerveau de toute l'opération, mais qui n'est finalement accusé que de fourniture de moyens. Pour Jean Roussel, savoir son père en prison est une torture. Alors le temps de l'action est venu. C'est décidé, il va parler. C'est ainsi que le 20 janvier 84, il se présente devant la juge d'instruction Françoise Alliot et se dit prêt à tout dévoiler. L'entretien dure des heures. La déposition, 15 pages. Mais sa version des faits laisse perplexe. Il faut dire qu'elle ne colle plus du tout avec le mobile initial. Car selon Jean Roussel, les 7 morts, ça n'était pas une histoire d'argent, non. Mais une histoire de fuite vers l'Allemagne.
Après 4 heures d'audition dans le cabinet de Mademoiselle Alliot, le juge d'instruction d'Avignon, Jean Roussel a parlé. Il y aurait eu 4 autres participants à la tuerie. Lui n'aurait pas de sang sur les mains. Ces révélations, et Jean Roussel aurait donné des noms, mettraient hors de cause tous les autres inculpés de cette affaire, sauf, bien entendu, Boutenoir, abattu par ses complices. Or, les inculpés actuels sont son père, sa sœur, le concubin de cette dernière, bref, tout ce qu'on a appelé le clan des Roussel, le clan de Barbantane.
Pendant 4 heures, Jean Roussel va raconter sa rencontre avec un drôle de trio. Un Français, Daniel Duval, et un couple d'Allemands, Charlie et Tina. Il se trouve qu'il cherchait des bras pour une opération musclée, récupérer de l'argent et des documents auprès d'un diplomate, Lucien André. Mais qu'est-ce que Roussel y gagne? Eh bien de l'argent, évidemment. Et surtout, un passage facilité vers l'Allemagne. Fini la prison, où il devait encore passer 6 ans. Mais voilà, raconte Roussel, c'était un piège. Et pas que pour le diplomate. Pour Boutenoir également, et pour lui aussi. Depuis le début, le plan du trio, c'était d'assassiner Lucien André et de faire porter le chapeau au braqueur. Mais pourquoi tant de morts? Ça n'a rien à voir. Voyez-vous, une fois le diplomate et sa compagne assassinés, Boutenoir a perdu la boule. Il a voulu se protéger et il a tué tous les témoins. Voilà. Mais lui, Roussel, il n'a tué personne. Admettons. Mais comment explique-t-il le sang sur ses chaussures et l'arme qu'il tenait lorsqu'il a été arrêté par la police? Celle-là même qui a fait 5 victimes dans l'hôtel. Il prétexte avoir simplement voulu emporter les preuves. Difficile à suivre, cette version. Et autant le dire clairement, elle ne tient pas debout. Lucien André et Geneviève, ainsi que leurs enfants respectifs, n'avaient pas prévu de dormir à Avignon ce soir-là. Non, ils étaient en route pour Toulon, d'où devait partir leur ferry le 5 août. Dans la nuit du 4 au 5, Lucien André avait réservé une chambre à Aix-en-Provence. Et le programme change en cours de route, comme le raconte la fille de Geneviève dans un échange de mails avec le fils de Lucien, 40 ans après les faits.
Lucien était fatigué de conduire. Alors ils ont pris le guide Michelin qui se trouvait dans la boîte à gants. Nous étions proches d'Avignon. C'était la première fois que nous allions passer des vacances ensemble. Nous avons dîné à l'hôtel et nous sommes allés nous promener jusqu'au pont d'Avignon. L'ambiance était au top. On s'est dit « bonne nuit », comme tout le monde. Ils ont attendu que je verrouille la porte et nous ne les avons plus revus.
Sa version rocambolesque, Jean Roussel n'aura pas l'occasion de revenir dessus ou de l'étayer. Le 9 octobre 85, il est de nouveau convoqué chez la juge d'instruction pour un interrogatoire récapitulatif. Il est extrait de sa prison à 13h. Dans l'estafette de police qui le transporte, il commence à tout sauter. Des quintes qui s'enchaînent et qui finissent par l'empêcher de respirer. Les yeux révulsés, un filet de salive qui coule le long de sa bouche, le prisonnier perd conscience entre la prison et le palais de justice. Malgré l'ambulance qui le prend en charge et les massages cardiaques, Jean Roussel décède à quelques dizaines de mètres du bureau de la juge. Il décède d'une crise cardiaque. Et la vérité sur le massacre du Sofitel disparaît avec lui.
4 ans d'instruction et seulement 2 accusés dans le box de la cour d'assises de Carpentras. Mais quels accusés ? François Arpineau, 44 ans, et Gérard Roland, 36 ans, qui font bien pâle figure. Petits truands et petits délinquants sans envergure, ils sont les seuls aujourd'hui à répondre d'un acte qui, en août 1983, a fait 7 victimes innocentes. Ils ont ou n'ont peut-être pas participé à la tuerie du Sofitel. Aucune preuve n'est avancée, aucun témoin n'est présent. Restent les présomptions et l'intime conviction des magistrats, qui peut également devenir celle des jurés. Pas étonnant donc de constater qu'Arpineau et Roland apparaissent en cette cour d'assises calmes, décontractés, parlant beaucoup entre eux et avec leurs avocats. Jean Roussel fils et Jacques Gouttenoir vont avoir bon dos, morts depuis les faits. La défense ne va pas hésiter à les charger.
Après des mois d'enquête et 5 ans d'instruction, le procès de la tuerie du Sofitel d'Avignon s'ouvre enfin le 10 juin 87 devant les assises du Vaucluse à Carpentras. Mais le banc des accusés avec François Arpineau et Gérard Roland est bien décevant. Les personnages principaux, Jean Roussel et Jacques Gouttenoir, sont morts. Ne reste que des seconds couteaux qui jurent n'avoir fait qu'héberger un beau copain blessé à la cheville. Au procès, ils prennent la parole à plusieurs reprises. Mais très vite, la lassitude s'empare de la cour. Les 2 accusés n'ont pas grand-chose d'autre à dire, sinon qu'ils sont innocents. Le procès dure 1 semaine, sans vraiment apporter des réponses ou même un quelconque réconfort aux familles victimes. Le 17 octobre, François Arpineau est condamné à 18 ans de prison et Gérard Roland à 15. Tous 2 pour les meurtres de Jacques Gouttenoir. Plus de 40 ans après le septuple meurtre du Sofitel d'Avignon, le mystère reste total. Les complices de Jean Roussel et de Jacques Gouttenoir n'ont jamais été retrouvés, ni même identifiés. Le mobile n'a jamais pu être entièrement confirmé et les théories restent en suspens. Celle d'un assassinat ciblé du diplomate Lucien André, du vol d'une grosse somme d'argent dans le casier de ce dernier, ou encore du hold-up qui aurait mal tourné. Le déroulé de cette nuit d'horreur ne repose toujours que sur des suppositions. Finalement, l'hôtel Sofitel de la Balance est racheté. Il devient l'hôtel Mercure du pont d'Avignon. Et puis l'affaire qui a fait tant de bruit en cet été 83 glisse doucement dans l'oubli. Jusqu'à l'été 2025, où l'affaire refait surface dans la presse, mais cette fois dans les pages culture des journaux. Aux rencontres de la photographie à Arles, on peut découvrir l'exposition du photographe Jean-Michel André, fils du diplomate Lucien André, intitulée « Chambre 207 ». Jean-Michel André est aujourd'hui notre invité.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la tuerie du Sofitel. Notre invité, donc, Jean-Michel André, photographe et fils de l'une des victimes. Bonjour.
Bonjour, Fabrice Drouel.
J'espère que ce récit n'a pas trop secoué des choses difficiles à entendre.
Parce que non, moi j'ai fait un gros travail depuis de nombreuses années sur ce projet, oui, sur ce sujet qui est devenu un projet dont on va parler.
J'ai entre les mains, justement, votre livre intitulé « Chambre 207, Jean-Michel André ». C'est un recueil de photos et de textes et je voudrais lire les premières lignes de ce livre. Le 4 août 1983, j'étais sur la route avec mon père, sa nouvelle compagne et sa fille. C'était l'année de mes 7 ans. Nous étions en partance pour la Corse. Il était tard et nos parents ont décidé de s'arrêter à Avignon pour y passer la nuit. Ils ont retenu 2 chambres au Sofitel, dans le quartier de la Balance, près du Palais des Papes. La chambre des enfants était la 207. J'y ai laissé ma mémoire et mon enfance. Dites-nous.
Oui, alors ce projet est un bon trou. J'ai conçu ce projet comme un projet d'édition. Ensuite, il y a eu toute une série d'expositions, comme vous avez pu le citer.
Et ça a reçu le prix Nadar, hein, qui est pour la photo ce qu'est le prix Goncourt pour le livre. Bravo.
Merci beaucoup. Et donc, j'ai réalisé ce projet. Il est conçu comme un essai visuel qui est composé de nombreux documents d'archives que j'ai pu récupérer justement aux archives départementales de Vaucluse, mais également des archives issues de la presse, oui. Et également des photographies de famille, des photographies vernaculaires, que je mêle à de nouvelles photographies que j'ai réalisées sur les lieux que j'ai traversé avec mon père et sur les lieux du crime aussi, mais également dans la région d'Arles, puisque les inculpés se sont beaucoup vus dans la région d'Arles, et également en Corse, qui était le voyage prévu à l'été 83, donc ce voyage qui n'a jamais eu lieu et que j'ai fait pour la première fois 40 ans plus tard.
Alors, j'y ai laissé mon enfance, on comprend ce que ça veut dire. Alors, ma mémoire, c'est donc la fille de Geneviève Dupont, hein, compagne de votre père et parmi les victimes, qui vous raconte cette nuit par mail, c'est cela ?
Exactement. Moi, suite au choc, le traumatisme a fait que j'ai eu une amnésie totale, donc je n'ai aucun souvenir de cette nuit-là, même si j'ai appris plus tard, grâce à la fille de la nouvelle compagne de mon père, qu'on a été interrogé par la police, qu'on a vu des cadavres en sortant de notre chambre, mais ma mémoire a tout effacé. Mmh. Et ce qui est assez troublant dans tout ça, il y a eu deux éléments déclencheurs qui m'ont poussé à réaliser ce projet. Le premier, c'est qu'il y a 13 ans, je suis devenu papa à mon tour, et donc l'événement a refait surface, non pas d'une façon traumatique, mais moi j'ai toujours cherché à effacer le passé. Et là justement, je me suis dit, voilà, ma fille va me poser des questions sur la vie de son grand-père, sur...
Bien sûr, la transmission.
Exactement. Pourquoi ? Et sur aussi pourquoi il est mort et comment il est mort. Ouais. Et donc je n'avais pas d'éléments de réponse à lui apporter. C'est là où j'ai commencé mes premières recherches. Il y a également un ouvrage qui a été écrit par un journaliste qui s'appelle Michel Rousseau. Un ouvrage qui s'appelle La tuerie du Sofitel d'Avignon. Donc je l'ai acheté à ce moment-là. Et après, j'ai pu également consulter de nombreux documents issus de la presse, des photographies, etc. Pile à ce moment-là, j'ai reçu un email de la fille de la nouvelle compagne de mon père. Et en fait, on s'est vu que deux jours dans nos vies, la veille du drame et le lendemain du drame. C'était la première fois qu'on partait en vacances ensemble. Et donc, voilà, pile au moment où je commence mes recherches, je reçois ce premier mail où elle me demande si je suis bien le fils de Lucien André, parce qu'elle m'a vu sur mon site internet, sur une vidéo qui était sur mon site. Donc voilà, extrêmement troublant. Et en même temps, on a, à ce moment-là, commencé à avoir des échanges de mails. Depuis, on s'est revus, hein, mais à l'époque, ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas eu de nouvelles ni de l'un ni de l'autre. Et elle me raconte ce que moi, je ne peux pas raconter. Donc, ces éléments textuels que j'ai retenus dans le livre et qu'on retrouve dans l'exposition, ils sont fondamentaux. Ils participent au récit, à la narration que je propose.
Ce que vous résumez d'ailleurs, noir sur blanc dans le livre, « La vérité se dérobe, je déplace alors mon regard et je disperse l'horreur pour conjurer le traumatisme. » Disperser l'horreur.
Oui, ce projet, en fait, il relève à la fois d'une reconstitution, une reconstitution des faits.
Et une reconstruction.
Mais d'une reconstruction, exactement.
Les deux.
Et voilà, c'est au tout début, j'étais vraiment dans cette quête de vérité, hein, quand j'ai commencé mes recherches. Assez rapidement, j'ai su que voilà, la vérité, comme votre reportage est extrêmement bien fait, et on s'en rend compte, la vérité, on ne la connaîtra jamais. Il y a trop de zones d'ombre. Après, j'ai laissé passer quelques années quand même, et j'ai repris le projet il y a 4 ou 5 ans, en sachant que justement, il fallait que j'insuffle de la poésie dans tout ça, et que j'aille vers une forme de délivrance, de réparation. Et donc, il y a aussi... le choc est présent, bien sûr, dans le livre, dans l'exposition, mais il y a également beaucoup de lumière. On finit d'ailleurs à la fois dans le livre et dans l'exposition par la lumière.
Absolument.
Et donc, oui, c'est au cœur de ce projet. Également, il y a un message d'espoir très fort dans ce projet.
Alors, évidemment, vous dites qu'on ne connaîtra pas la vérité. A priori, non. Mais sait-on jamais? Enfin, a priori, non. Il y a quand même trois suppositions, théories majeures qui sont retenues par les enquêteurs. Laquelle a votre préférence, si tant est que vous ayez cherché à avoir une préférence entre les trois, hein, je vous pose la question.
Alors, une préférence, je
n'utiliserai... Qu'il paraît le plus crédible.
Oui, oui. Bah, justement, c'est vraiment un grand point d'interrogation. Donc, en tant que fils de l'une des victimes, j'ai fait une demande de dérogation pour avoir accès à l'entièreté de l'enquête judiciaire, du dossier d'instruction. Il y a 10 volumes énormes. Et donc j'ai eu accès aux hypothèses aussi soulevées par les enquêteurs. Donc il y en a trois. Il y a, comme vous l'avez dit, l'hypothèse diplomatique. Mon père aurait pu être recherché. L'hypothèse du hold-up qui a mal tourné, qui a été retenue en conclusion, même si voilà, l'enquête elle a jamais été entièrement élucidée. Mmh. Et la troisième hypothèse, c'est l'hypothèse financière.
Les 100 000 francs.
Pardon.
Les 100 000 francs.
Non, ça c'est évoqué, mais comme vous l'avez très bien expliqué également, c'est l'un des témoignages de la famille Roussel. Mm. Pareil, ça paraît très peu probable.
Ouais, c'est pas suffisant.
Mon père, je vois pas comment il aurait pu voyager avec 100 000 francs. Enfin, on partait voir l'un de ses meilleurs amis en Corse. Ouais. Ça n'est pas crédible. Et non, la troisième hypothèse, c'est l'hypothèse financière par rapport au directeur de l'hôtel qui avait des financements un peu sombres et il aurait pu être recherché. Donc ça aussi, mais dans l'enquête judiciaire, il y a des milliers de procès-verbaux, c'est juste énorme. Donc ça a été pour moi la partie la plus compliquée, justement, c'était d'essayer de creuser dans tout ça. Et pour en revenir à ce projet, c'est vraiment pour moi une façon de transcender l'horreur et de sublimer le réel. Et c'est ce que permet, entre autres, la photographie, c'est cette magie de, justement, réinventer des souvenirs que je n'ai plus et de les partager pour que ce projet puisse devenir tangible, justement partageable. C'était pour moi aussi très important que les enfants puissent voir mon exposition sans être choqués. Donc j'ai fait très attention à ce que je montre et ce que j'occulte dans ce projet. Et j'interroge aussi, justement, parce qu'il y a eu des images horribles véhiculées par la presse, par une certaine presse. Donc je froisse des documents, je brûle des documents. J'interroge aussi les limites de l'image avec ce projet. Qu'est-ce que l'on peut montrer? Pourquoi? Comment? Et pour qui? Donc tout ça, il y a beaucoup de réflexion. Oui. Hein, il fallait doser tout ça. Il y a un grand travail avec mon éditrice, avec Actes Sud. Mais il fallait aussi que l'émotion, elle soit présente et donc qu'il y ait aussi ce message d'espoir qui est au cœur du projet avec de nombreux paysages qui ont une dimension symbolique. Des fois, je parle même de métaphore de l'image où je suis passé des ténèbres à la lumière avec tout ça.
Affaire sensible sur France Inter.
Jean-Michel André, ce livre, cette expo, ces photos nous parlent, mais le poids des mots est très important dans ce livre. Ce sont de jolis mots, je ne résiste pas au plaisir de les lire. Par exemple, les mots n'existent pas forcément pour révéler des blessures, des failles. Je peux donner l'impression de me dénuder, mais je reste pudique. Je ne dévoile pas tout. Je travaille sur les lisières, sur le fil, tel un funambule qui avance en essayant de ne pas chuter, de rester concentré. Qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Ben oui, en fait, pour rebondir à ce passage, c'est vrai que l'écrit, c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi. En photographie, je me laisse vraiment guider par l'intuition, l'émotion. Et bon, avec ce projet, je vais à l'encontre du pathos, du spectaculaire. Donc, j'ai essayé d'être le plus factuel possible, tout en... Je suis pas du tout un écrivain, loin de là, mais voilà, qui a un peu de poésie, en tout cas une profondeur, on peut dire. Et c'est vrai que dans ce projet, tout part de l'intime, mais il y a une dimension universelle. Et d'ailleurs, dans les expositions, j'ai eu des retours extrêmement touchants de personnes qui ont pu vivre un traumatisme dans leur vie et qui m'ont remercié. Il y a des gens qui ont pleuré dans mon exposition, mais en me remerciant, en me disant, mais c'est tellement beau ce que vous avez réussi à faire et c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et des gens qui ne sont pas forcément du milieu de la photographie. Donc voilà. Et en parlant de l'écrit, il y a une très très belle post-face aussi de Clément Chéroux, donc qui est actuellement le directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris, qui est un grand historien de la photographie. Et là aussi, il y a du sens, parce que c'était mon professeur d'histoire de la photographie quand j'étais tout jeune. Et donc, j'ai essayé qu'il y ait du sens partout dans la conception du projet. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi, que je remercie. Comme je disais, l'intuition, l'émotion, elle passe par la photographie.
Il y a beaucoup de photos d'Afrique. Sénégal, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Le Sénégal, c'est le pays où j'ai passé les 5 premières années de ma vie avec mes parents. C'est là où, en fait, mon projet a pris tout son sens, quand je parlais de réparation. Cet apaisement, il a opéré vraiment en étant au Sénégal. Et en les photographies, il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ces photographies. Donc, j'ai aussi fait des choix de photographier soit très tôt le matin pour avoir ces lumières douces ou justement en fin d'après-midi. Donc, je n'ai pas eu de souvenir de cette époque-là. Mais par contre, j'ai eu des sensations de déjà-vu, de déjà-vécu. Et même, il y a eu une forme de spiritualité dans ce voyage très forte.
Et, oui.
Non, excusez-moi, j'allais justement rebondir. Exposition de Chambre 207, ce sera au Sénégal, à Dakar.
D'accord. Alors, au milieu du livre, il y a le plan des chambres de l'hôtel. C'est le deuxième étage, c'est ça ? Parce qu'on commence par deux. Et puis, en face, il y a un mail. C'est quoi ce mail ? Correspondance mail. Le 20 mars 2013.
Oui.
Seriez-vous le fils de Lucien André, cordialement ? Oui, c'est bien moi.
C'est ça, c'est le premier mail, en fait.
C'est ça, avec la
fille de Geneviève Dupont. Mm-hmm. Et en fait, dans son mail, donc, j'ai vu le nom de famille. Et comme c'était pile au moment où je commençais mes recherches, je me suis dit, mais c'est fou, elle m'écrit 30 ans plus tard. Et donc, bien sûr, j'ai rebondi au mail. Et ensuite, on a échangé longuement. Et j'utilise uniquement deux passages de ces mails qui permettent aux lecteurs d'avoir une forme de compréhension aussi.
Très bien, on va terminer sur un dernier extrait. Vous écrivez « Je suis un survivant dont l'histoire s'inscrit dans l'écho de milliers de récits d'ici et d'ailleurs, de souffrances et de réparations. La photographie est mon point d'appui, mon souffle, mon chemin d'expérience de la vie et du sensible. Je me fais voyant pour transcender l'indicible et rendre au monde une part de sa beauté volée. » On ne va rien ajouter après ça. Sauf à vous dire merci.
Un grand merci à vous. Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la tuerie du Sofitel d'Avignon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Mélissa et Troyes.